vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Dans cette émission, nous ferons écouter des enregistrements pris dans le cadre d'une rencontre organisée par l'ICAN française, c'est-à-dire la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Lancée en 2007, cette dernière est une coalition d'organisations non gouvernementales et opère à une échelle internationale pour promouvoir l'élimination des armes de destruction massive. C'est par l'initiative de cette coalition que fut proposé le traité aux Nations Unies portant sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, lequel fut ratifié en 2021 par de nombreux pays, aucun cependant ne faisant partie des puissances nucléaires. L'ICAN France donc avait invité ce mardi dernier la militante et politicienne polynésienne Inamora Cross Morgan, laquelle s'est entretenue avec Jean-Marie Collin, directeur de ICAN France, des conséquences de ce qui est nommé communément des essais nucléaires en Polynésie française. Ces derniers, qui se sont étalés sur 30 ans, du 2 juillet 1966 au 2 décembre 1995, ont eu de désastreux effets sanitaires et environnementaux et impactent aujourd'hui encore, mais demain aussi, les habitants. Dans cette émission, il sera peu sujet de l'histoire nucléaire de la Polynésie, de son origine, après que l'Algérie devint indépendante, et du complexe militaro-industriel le soutenant, des luttes locales comme des solidarités du siècle passé et présent. Cette histoire y sera davantage racontée en creux et constituera une première approche pour qui voudrait s'y intéresser. L'émission, due au fait du cadre institutionnel dans lequel elle a été enregistrée, s'attardera en revanche et plus explicitement sur la gestion des déchets nucléaires, sur la reconnaissance des victimes et des maladies transgénérationnelles, sur leur prise en charge. Vous pourrez entendre également des échanges sur l'ouverture et la gestion des archives et sur son aspect colonial. Plus profondément, il sera sujet en filigrane du rapport à la mémoire, à la vérité et sur ce qui fait, finalement, héritage. Qu'est-ce qu'il reste après? Quasiment 30 ans plus tard, après la dernière explosion nucléaire. Et nous commençons sans plus d'introduction cette émission avec la présentation de Inamora Cross Morgan. Bonne écoute.
Moi, je suis l'angle humanitaire de... qui se cache derrière ICAN. Donc, je m'appelle Inamora Cross, épouse Morgan, et je suis née en Polynésie française en 1988. Donc, j'ai connu les tirs nucléaires jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais ce n'est que à 30 ans que je vais vraiment m'investir dans le fait nucléaire, dans la lutte de la reconnaissance des conséquences de ces 193 bombes, parce que avant ça, je pensais dans mon esprit qu'il y avait eu 3 ou 4 essais nucléaires, parce qu'à l'école, on n'en parlait pas, on n'a jamais étudié ce fait, parce que dans ma famille, c'était pas forcément un sujet aussi dont on parlait, parce que c'est un véritable traumatisme pour les générations avant moi. Et donc, c'est à 30 ans qu'un homme politique en Polynésie française va tenter de porter plainte pour crime contre l'humanité contre les présidents de France de 1966 à 1996. Et c'est ça qui va piquer ma curiosité. Parce que là, je me dis, on est en 2018, il est complètement fou. On ne peut pas dire que les essais nucléaires, c'est un crime contre l'humanité. Et à ce moment-là, en fait, c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je vais apprendre avec effroi qu'il y a eu, en fait, il n'y a pas eu 3 ou 4 essais, il y en a eu 193. Donc là, ça va être un gros choc pour moi. Je me dis, tu as quand même fait des études et tu n'étais même pas au courant de ce pan de l'histoire. Il y a quand même une grosse différence entre 4 et 193. Et ensuite, ce qui va surtout m'interpeller, c'est la liste des maladies radio-induites reconnues, qui reconnaît les victimes du nucléaire. Et sur cette liste, je vais trouver toutes les maladies qui touchent les femmes de ma famille, le cancer de la thyroïde avec ma maman, ma grand-mère, ma sœur et ma tante qui, elle, va avoir... on dit tristement un cocktail de maladies radio-induites, c'est-à-dire qu'elle va avoir aussi le cancer du sein, ce qui est quelque chose qui touche énormément de Polynésiens. C'est pas un cancer, c'est plusieurs cancers dont ils sont atteints. Et donc à ce moment-là, je tombe des nues. Et en plus de ça, je vois donc dans ma famille, ma sœur a très vite eu des soucis, mais moi, je pensais que j'étais sortie des mailles du filet, que j'avais eu de la chance. Et finalement, c'est à 24 ans qu'on va me déceler la pire maladie de la famille, donc une leucémie. À ce moment-là, je suis jeune maman d'un garçon de 1 an et demi. Donc, je peux vous dire que la vie est bouleversée parce qu'on se dit, je vais pas voir grandir mon fils. Merci Seigneur et merci la médecine. Je suis encore là 11 ans plus tard. Mais donc... À 30 ans, je découvre cette liste des maladies radio-induites et je me rends compte de toutes les conséquences de ces 193 bombes sur notre famille. Et je découvre qu'en fait, on n'est pas les seuls et qu'il y a des milliers de Polynésiens. Donc c'est comme ça que je vais m'engager tout d'abord sur le plan local parce que je me dis, si toi tu n'étais pas au... Donc commence à parler. J'ai rejoint les associations, j'ai bien sûr parlé de la maladie dont je suis atteinte. Et ensuite, j'ai très vite vu que l'État était sourd face à ce qu'on disait, face aux militants antinucléaires, que l'État était amnésique. Et c'est comme ça que je vais décider d'aller parler à l'international, que je vais avoir l'opportunité de parler devant les Nations Unies, plus précisément la 4e commission des Nations Unies à New York. Et ensuite, que je vais me faire connaître à travers mon premier discours, dans lequel je vais bien sûr parler de ce qui touche ma famille, parler du fait aussi que De Gaulle avait dit que toutes les dispositions étaient prises pour la sécurité des Polynésiens et que ce n'était pas le cas. Et je vais terminer mon discours en disant que notre peuple a été les souris de laboratoire de la France pendant 30 ans. Et c'est comme ça donc, que je me fais connaître et qu'après, on va me présenter à Jean-Marie. Donc de ICANN et que je vais m'ouvrir aux organisations internationales et que je vais avoir l'opportunité de continuer de militer sur le plan international parce que pour moi c'était important d'aller chercher des alliés qui peuvent nous aider, nous les Polynésiens, puisque la France ne veut pas nous écouter. Et je vais participer à la première réunion du traité d'interdiction des armes nucléaires à Vienne en 2022. Et à ce moment-là, je suis simple militante, donc je vais avoir 2 minutes 30 de temps de parole et je vous avoue que c'est rien du tout. C'est vraiment « bonjour, je viens de Polynésie, merci de m'avoir écouté, au revoir ». Et ça va me frustrer et je vais être même jalouse des politiques qui vont avoir 20 minutes de temps de parole, qui vont avoir aussi accès à des réunions auxquelles je n'ai pas accès. Et c'est comme ça que je me dis, il faut peut-être que tu te lances en politique, tu auras peut-être plus d'outils pour le combat, plus de temps de parole, et c'est ce que je vais faire en rentrant au pays. Et du coup, depuis mai 2023, je suis élue représentante à l'Assemblée de la Polynésie française. Et donc, effectivement, j'ai plus de pouvoir avec ce poste, donc c'est l'équivalent de député à l'échelle nationale. Et ensuite, l'année dernière, j'ai reçu...
Le Nuclear Free Future Awards, qui est donc un prix qui vient souligner et encourager les débuts des travaux qu'une personne a réalisés sur le nucléaire civil et ou militaire.
Mon premier texte que j'ai pu déposer, présenter à l'Assemblée de la Polynésie française, était un, une résolution en soutien au traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc ça a été voté à l'unanimité de toute l'Assemblée, ce qui est une première concernant le fait nucléaire en Polynésie, parce que il y a certains partis politiques qui on n'est pas tous d'accord. Donc c'était vraiment important que ce texte soit voté à l'unanimité. C'était à la fois une demande auprès de la France de leur dire d'être État observateur aux réunions du traité d'interdiction des armes nucléaires et également un message pour la communauté internationale pour leur dire que nous, la Polynésie, on existe comme communauté affectée qui subit encore les conséquences du nucléaire français. Au-delà de demander plus de vérité ou de transparence, il y a une urgence vraiment qui me tient à cœur et qui est importante, c'est qu'en Polynésie, nous n'avons pas la médecine à la hauteur du préjudice qu'on a subi, c'est-à-dire qu'on a 30 ans de retard en termes d'infrastructures. Par exemple, on n'a pas de TEP scan, quelque chose qui existe, je crois, depuis les années 2000 ici et les années 90 aux États-Unis. Donc, soit on a la chance d'avoir la possibilité d'aller en Nouvelle-Zélande pour faire ce TEP scan qui coûte 5 000 euros, donc qui est pris en charge par notre caisse, mais c'est vraiment au cas par cas. Et donc, aujourd'hui, on a des personnes qui vont se faire soigner avec les moyens du bord. Pour d'autres, ça va être une EVASAN, donc une évacuation sanitaire sur Paris. Mais je ne vous dis pas le traumatisme pour les gens. Imaginez certains qui sont sur leur île, en Paréo, parce qu'il fait 30 degrés, qui ne parlent pas le français. Ils vont aller sur la capitale, à Papeete, on va leur dire « ben, tu as une leucémie ». Ça ne peut pas être soigné en Polynésie. Dans 2 jours, tu pars en France. Et là, il arrive, il passe de 30 degrés à... Là, je crois qu'on est à 10 degrés. Il ne parle pas français. Et il est censé se faire soigner. Comment est-ce qu'il va expliquer tout ça? Donc souvent, il y a des personnes qui ne veulent plus se faire soigner ou qui vont rentrer en Polynésie en cercueil. On a énormément aussi d'enfants atteints de leucémie qui sont soignés ici à Paris. Et tout ça, ce sont des choses que je dénonce en tant que femme politique pour demander à la France d'assumer sa responsabilité aujourd'hui. La dissuasion nucléaire, ils en parlent beaucoup, permet la sécurité de la nation, mais cette dissuasion nucléaire, la France l'a atteint au sacrifice de 2 peuples, les Algériens et les Polynésiens. Donc aujourd'hui, je demande que justice soit faite et que la France vienne nous aider en matière de santé, parce que c'est en 1977, donc 10 ans après le premier essai nucléaire, que la France va, sous couvert de nous donner plus d'autonomie, nous rétrocéder la responsabilité de la santé, donc comme un cadeau empoisonné. Et aujourd'hui, ce cadeau empoisonné, on le supporte au travers de nos cotisations, mais on n'arrive pas. Je vous dis, on n'arrive même pas à se payer un centre de médecine nucléaire, quelque chose qui est totalement courant en France métropolitaine. Donc voilà notre situation actuelle et urgente. La loi d'indemnisation qui s'appelle la loi Morin a été créée en 2010. Elle a beaucoup évolué. Je vais rester sur ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut avoir été en Polynésie entre 1966 et 1998. Être atteint d'une des 23 maladies radio-induites.
Et prouver qu'on était bien sur ces zones-là.
Avoir été en Polynésie. Mais aujourd'hui, c'est pas un Polynésien malade, je vous le dis, il va pas, c'est pas quelque chose qui lui correspond. Et je le dis en plus parce que moi, je n'ai jamais déposé mon dossier. J'ai d'ailleurs un peu honte de le dire en Polynésie parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis une grande militante depuis des années, très active. J'ai déjà dû déposer mon dossier depuis belle lurette et pas du tout. Parce que, premièrement, j'ai jamais été d'accord avec ce système d'indemnisation où c'est à nous à devoir récolter plein d'informations, à devoir prouver et devoir essayer d'engager la responsabilité de la France, alors que normalement, ça devrait être à l'inverse. Et puis, je trouve aussi que la France ne peut pas être juge et partie, ce qui est totalement le cas. Donc, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis toujours malade. Je prends une chimiothérapie depuis 11 ans par voie orale qui permet de mettre en sommeil la leucémie, donc qu'elle n'évolue pas de chronique à aiguë. Mais je me dis, c'est le Civen qui va décider du prix de ma vie, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas guérie. Donc j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est dur en tant que maman, parce que maman, elle était super en forme à 24 ans, mais maman, elle est fatiguée là, à 35 ans. Hein. Et je vous avoue que lorsque j'avais 25 ans, j'avais demandé à mon docteur comment est-ce qu'on meurt de la leucémie dont je suis atteinte. Et elle m'avait dit, les gens, ils meurent parce que souvent, ils meurent parce qu'ils arrêtent leur traitement. Du coup, à 25 ans, je me suis dit, il faut vraiment être bête pour arrêter son traitement et se laisser mourir. 11 ans plus tard, je comprends totalement parce qu'on est, fatigué. Donc, quel prix aura, quelle est la valeur de ma vie si je présente un dossier? Et aussi, est-ce que je vais être acceptée? Peut-être qu'ils vont dire que je suis pas reconnue comme victime. Et si j'étais reconnue, quelle somme? Parce que quand je vois certaines décisions, c'est on lui a enlevé son sein, 5 000 euros. Elle a perdu ses cheveux, 5 000 euros. Elle a ceci. Donc, c'est un peu, c'est la note. Et on calcule et on met un prix sur vos souffrances. Et donc, c'est une loi qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Et par rapport aux petits chiffres qu'on a, c'est sûr que c'est même pas le haut de l'iceberg, c'est un grain de sable dans le Sahara.
Ouais, c'est vraiment une loi qui existe. On va dire que c'est une bonne chose lorsqu'en 2010 elle a été mise en place, puisque pour la première fois et de façon complète, finalement, l'État français reconnaissait qu'à la suite des explosions nucléaires, il y a eu des victimes de ces essais, de ces explosions. Donc ça, c'était une bonne chose. Malheureusement, on voit bien que 14 années après, la loi a totalement raté ses objectifs. On estime qu'au minimum, si on reste juste sur la Polynésie, au moins 150 000 personnes y ont participé. Et je parle des participants, c'est-à-dire des militaires, des civils qui ont été employés par les militaires pour différentes tâches. Donc ce chiffre minimum, qui pourrait prétendre à présenter un dossier. Et on s'aperçoit que, selon les chiffres officiels, on a 2282 dossiers qui ont été déposés en 14 années, et dont une extrême majorité depuis 2019, entre 2019 et 2023. 2282 personnes ont déposé un dossier pour savoir s'ils pouvaient être reconnus comme victimes. Et sur ce chiffre-là, on n'a que 875 personnes qui sont reconnus comme des victimes des essais nucléaires français. Donc on voit que c'est infinitésimal. Et si on rentre un petit peu dans les détails des chiffres, sans trop vous en abreuver, on a 567 métropolitains qui sont reconnus comme victimes, c'est-à-dire des soldats ou des civils qui ont participé aux essais, alors que ça soit au Sahara ou en Polynésie, voire parfois d'ailleurs dans les deux. On n'a que 307 Polynésiens qui sont reconnus comme victimes. Et on n'a qu'un seul Algérien qui est reconnu comme victime. Et là, tu ne l'as pas trop évoqué, mais dans la complexité de prouver qu'on a été au bon endroit, entre guillemets, ou au mauvais endroit, qu'on a la maladie qui correspond, donc l'un des 23 cancers, puisque là aussi, on n'a que des maladies radio-induites, donc des cancers, mais on n'a pas des malformations. On n'a pas ce qu'on appelle des bébés sirènes, principalement en Polynésie. Donc, c'est des enfants qui ont les deux jambes collées à la naissance. On a des phénomènes de bébés méduses, principalement aux îles Marshall. Je ne vais pas vous faire une description, mais le nom est assez horrible, avec toute la souffrance qu'il peut y avoir pour la maman, pour les infirmières, pour les papas, la famille. Donc, tout ça sont totalement écartés. On a la difficulté de prouver ça, de rentrer dans le cadre des maladies, de pouvoir remplir son dossier. Tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas la facilité de pouvoir travailler sur Internet. La loi, c'est 2010. Les premières traductions en langue tahitienne, c'est 2017-2018. Donc, il a fallu 8 ans pour traduire quelques documents. Apparemment, c'est compliqué dans les services de l'État. Mais il en a fallu 14 pour les traduire en langue algérienne. Et on vient enfin de les obtenir après un lobbying intense sur ces 3 dernières années. Donc, on s'aperçoit que, très clairement, il y a une absence de volonté de l'État français de vouloir faire en sorte que la loi fonctionne. Dans les éléments qui sont compliqués, et il y a une commission d'enquête parlementaire qui va être lancée début mai par une députée qui s'appelle Madame la députée Mariana Arbelot. Il y a des éléments qu'on souhaiterait faire évoluer, et je suppose que ça va aller dans ce sens-là aussi, c'est on a une problématique de date. En fait, vous ne pouvez constituer ce dossier, et je reste sur le cas polynésien, que si vous avez été entre 1966 et 1998. Les essais s'arrêtent bien en 96, mais le démantèlement du site d'essais s'arrête en 98. Donc c'est pour ça qu'on inclut cette date-là. Mais si vous êtes né le 1er janvier 1999, vous n'avez pas droit à prétendre à cette loi. Et donc c'est toute la problématique du transgénérationnel. Une enfant qui naît en 2003 avec des parents qui sont atteints de maladies et qui va avoir aussi des maladies, comme le montre justement ce fameux documentaire « Les oubliés de la tombe » de Suliane Favennec, eh bien, ne rentre pas dans ce cadre-là. Et donc ça, c'est un véritable problème. On a aussi toute la problématique des victimes par ricochet. Une épouse, une famille qui va avoir un mari qui a été atteint d'un cancer et qui va décéder, elle ne touche aucune indemnité pour l'aider à avancer dans la vie et supporter la peine morale et tout simplement pouvoir voilà, engager différentes choses. Donc ça aussi, c'est pas reconnu, alors que c'est reconnu dans différents types d'autres grandes problématiques comme la problématique de l'amiante.
À lire cette loi, les maladies, elles s'arrêtent en 1998, alors que c'est pas du tout le cas. Et on le voit sur les nouvelles générations. Et on l'a vu aussi, que ce soit au Japon, parce qu'on apprend énormément des communautés affectées. Les générations d'aujourd'hui subissent encore les conséquences de Hiroshima et Nagasaki. Les générations de Kiribati, des îles Christmas, subissent encore Nouveau-Mexique aux États-Unis. Donc pourquoi en France métropolitaine, ça s'arrête en 1998? Donc ça, c'est un gros travail à faire au niveau politique, que ce soit en Polynésie ou ici, avec le soutien des députés. Parce qu'aujourd'hui, là, pour parler avec un peu plus d'humanité... il y a des personnes, je ne sais pas si vous êtes parents, mais il y a des personnes en Polynésie qui décident de ne pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur. Et moi, ça me déchire parce que je suis devenue maman à 24 ans et mon premier fils a donné un sens à ma vie incroyable. Et je vais vous partager aussi la décision de faire un autre enfant. Donc bien sûr qu'avec mon mari, on s'est posé la question parce que lui aussi, de son côté... Il a perdu des personnes à cause de maladies radio-induites. On s'est dit, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on le fait? Et on a eu un grand accompagnement de l'hôpital. J'ai la chance, moi, de pouvoir être suivie en Polynésie avec une hématologue à l'époque. Et elle m'a dit, OK, on va y aller. C'est parti pour la grossesse. Et j'ai eu une grossesse sous surveillance, comme une VIP, avec des échographies quasiment toutes les 3 semaines. Et j'ai eu en fait un suivi exceptionnel, mais qui ne devrait pas en fait l'être. C'est le suivi que toutes les femmes de Polynésie devraient avoir par rapport au contexte dans lequel on a grandi, par rapport à ces 30 ans d'expérimentation nucléaire. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux dénoncer, qu'on n'a pas un accompagnement comme ça en Polynésie. Et merci... Merci beaucoup parce que mon fils est en bonne santé. Aujourd'hui, il a 1 an, donc j'ai 2 garçons, un garçon de 12 ans et un garçon de 1 an qui sont en bonne santé. Mais on a toujours cette petite peur. Et je vais vous parler d'un témoignage de Tina Cordova du Nouveau-Mexique que j'ai rencontré l'année dernière, qui me disait chez nous, c'est pas « est-ce que je vais tomber malade ?» La grande question, c'est « quand est-ce que je vais tomber malade ?» Et ça m'a déchiré le cœur. Ils ont plus de conscience, je pense, des conséquences là-bas, parce que ça s'est passé avant. Peut-être qu'il y a plus de transparence.
Tina Cordova est la deuxième génération. Ses parents étaient sur le site de Los Alamos. Vous avez Trinity. Peut-être vu le film d'Oppenheimer où il y a eu ce premier essai nucléaire « Trinity ». Et ce qui n'est pas montré dans le film, c'est qu'il y avait des populations et on ne leur a pas demandé gentiment de partir. On les a expulsés fortement et dans l'horreur, à la suite de l'explosion nucléaire, eh bien, les déchets, enfin les retombées radioactives sont venues retomber sur les villages où on avait mis ces populations. Et elles ne sont toujours pas considérées pleinement comme des victimes des essais nucléaires aux États-Unis, sachant que là-bas, la situation est encore différente. Aujourd'hui, en France, on a la sécurité sociale qui peut vous aider à vous soigner, ce qui n'est pas le cas, évidemment, là-bas. Et c'est vrai qu'elle a un témoignage très fort où tout le monde attend de savoir quand est-ce qu'il va tomber malade. Et les communautés affectées aujourd'hui sont véritablement à travers le monde. On a plus d'un million de personnes au Kazakhstan, par exemple. On a bien sûr les populations encore d'Hiroshima et de Nagasaki. On a la Polynésie, l'Algérie, on l'a vu, l'ensemble de l'Océanie avec l'Australie, les aborigènes. Et c'est là aussi où on a un point commun, là où les essais nucléaires ont été réalisés. Ils ont tous été réalisés, évidemment, loin des centres urbains, des villes. On les a pas fait en France, hein, on les a pas fait à Clermont-Ferrand, on les a pas fait dans les Pyrénées. On les a fait finalement dans des colonies où il y a des populations autochtones. Et à chaque fois, il y a une empreinte coloniale extrêmement forte. Et une empreinte coloniale qui est toujours présente.
Rien que pour moi, le mot essai. Et je vais vous raconter une anecdote. J'étais pas encore en politique, mais j'étais déjà militante. Et sur Facebook, je vais voir un des ministres de l'ancien gouvernement qui va partager un livre qui s'appelle « La vieille dame et Hiroshima ». Et donc, il dit « Chers Polynésiens, je vous invite à lire ce livre. Il s'agit là de vraies bombes et pas juste d'essais. » Donc là, je suis un peu choquée par son cynisme et je me dis « Comment un ministre peut écrire ça ?» Mais en fait, c'est tout simplement aussi parce que, qu'on me filme pas, mais il a pas inventé l'eau chaude, le coco. Parce qu'en fait, il sait pas qu'un essai... C'est une bombe nucléaire à des fins expérimentales. Donc pour lui, ben c'était juste un essai. Mais en fait, dans ces juste 193 essais, on a quand même eu une bombe en 1968 qui était 150 fois plus puissante que Hiroshima, que celle qui a détruit la ville d'Hiroshima, que celle qui a détruit la ville de Nagasaki. Et c'est là où en fait j'ai compris la dimension de ce mot essai et qu'on avait mis aussi dans la tête de tous les Polynésiens. Ce n'était que des essais, c'est pas des vraies bombes.
Et cette dimension coloniale, elle est toujours très très forte aujourd'hui, puisqu'il y a cette autorité française qui prime et qui est là et qui décide du jour au lendemain de faire une action sans passer par exemple tout simplement par le Parlement français, par exemple. L'ensemble des archives ont été ouvertes en juillet, à partir de juillet 2021, pour la Polynésie française et pas pour l'Algérie. Alors que jusqu'en juillet 2021, on a une loi, normalement, qui interdit l'ouverture de ce type d'archives pour risque de prolifération nucléaire. Et du jour au lendemain, le président Macron décide que non, on les ouvre. Donc c'est bien un fait du roi, une action comme ça. Et on s'apercevra par la suite qu'en fait... ces archives auraient pu être ouvertes depuis très très longtemps. Il n'y avait absolument rien qui posait un vrai danger en termes de sécurité. On imagine que c'est la même chose pour les archives algériennes, mais on les attend encore pour le coup. Et on a aussi des problématiques, puisque beaucoup de rapports scientifiques ont mis sur le dos des Polynésiens le fait que si finalement vous êtes malade, c'est parce que vous êtes une toute petite population, c'est parce qu'il y a des problématiques de consanguinité. C'est parce que il y a ce genre de choses. C'est pas à cause des armes nucléaires. Et ça, c'est des choses, des arguments qu'on retrouve un peu de partout auprès des populations autochtones. Donc, on voit cette empreinte coloniale est très forte. Et encore une fois, dans ce documentaire Les oubliés de l'atome, on l'entend bien. Et il y a un autre truc qu'on entend bien, c'est finalement, vous êtes vachement sympa comme population, parce que quand on arrive, vous nous donnez des colliers de fleurs, hein? Et on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est bien exprimé dans ce documentaire. En fait, vous êtes d'une certaine façon, mais c'est plutôt une qualité en réalité, vous croyez dans l'autre. Complètement. Vous êtes trop naïf, mais parce que vous croyez dans la bienveillance de l'autre. Et sauf que l'autre, pour le coup, n'a jamais été jusqu'à présent bienveillant.
Dans la continuité des échanges, et en bref, une question non enregistrée par le micro interrogeait l'existence potentielle de malversations dans le maintien du secret défense des archives.
Ça, c'est la vraie question. Voilà, ça, on ne sait pas. On a des vraies interrogations sur un certain nombre de choses. Et le fait de vouloir cacher ou de conserver ces archives comme dites secrètes, eh bien, forcément, fait naître des interrogations. On se dit, s'ils ne veulent rien dévoiler, c'est qu'ils ont un truc à cacher. S'ils n'ont rien à cacher, ils les dévoilent.
treeless. Now you're unstable against the people. Now you've got the bomb, filling up and strong, ready to protect and never do wrong. Now you've got the bomb, filling up and strong, ready to destroy. In Moruroa, in Fangataufa, all my family ever has to live in Polynesia, in Polynesia. This society ever has to live in Polynesia, in Polynesia. Topa iroto ite ati.
Nous allons passer à la seconde partie de cette émission consacrée aux explosions nucléaires à des fins expérimentales, ici en Polynésie française, et qui sont usuellement appelées aussi des essais nucléaires.
C'est le 9 mars 2024 que j'ai été invitée à visiter Moruroa avec d'autres personnes de Polynésie, que ce soit du monde politique et également du monde associatif. Et je pensais que j'allais être prise d'émotion en arrivant sur ce lieu, où il y a eu le centre d'expérimentation du Pacifique. Mais je vous avoue que ce qui m'a frappée en premier, en fait, c'est la beauté de l'atoll. Le bleu du lagon, la nature a repris ses droits. Et en fait, c'est ce qui m'a frappée, c'est de me dire comment ils ont pu venir chez nous, au milieu de cet océan, au milieu de ce lagon, et faire leurs expérimentations nucléaires. Et j'étais choquée parce que, quand on était sur un des blocos, le blocos, je crois, Denise, les militaires nous expliquaient que les essais étaient vraiment juste là, au milieu, dans le lagon. Sauf que, pour nous, le lagon, c'est notre garde-manger. On n'a pas des prairies, on n'a pas des moutons ou des vaches. Nous, notre nos protéines, tout ça, ça vient de la mer. Donc en fait, ils ont vraiment mis une bombe nucléaire dans notre terre nourricière. Ils ont empoisonné ils ont empoisonné toute notre nourriture. Ils ont contaminé notre environnement sur des générations et des générations avec un poison en plus qu'on ne voit pas. Donc le polynésien, moi je mange toujours. Nous on mange du poisson matin, midi, soir, goûter. Dans nos rêves aussi, c'est ça notre alimentation première. Et c'est ça qui m'a vraiment rendue triste. Et ensuite, j'ai quand même senti une volonté de transparence parce qu'on avait le droit d'aller un peu où on voulait. Même si la visite était guidée, j'ai pu ramasser des coquillages, des bouts de fer. Il y a même un militaire qui était venu parce que je me cachais, je savais pas trop si j'avais le droit, qui est venu derrière moi en me disant alors comme ça on fait ses prélèvements soi-même. Je me suis tétanisée, mais en fait il a rigolé, il a dit mais non, ramassez ce que vous voulez, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais senti au début un semblant de transparence, tout en me méfiant quand même parce qu'on a eu des décennies de mensonges avec la propagande étatique comme quoi les essais français sont propres. Et là, je vous avoue que j'ai plus trop ce discours parce qu'en fait, lorsqu'on nous a présenté la mission Turbo, qui est la mission de suivi de la radioactivité, j'ai posé une question au docteur qui est chercheur également. Quid de tous les déchets qui ont été océanisés, donc pas océanisés, balancés dans notre lagon. Et elle me dit ah, merci pour votre question très intéressante. Alors nous avons pris toutes les précautions pour océaniser ces déchets et nous les avons bétonnés. Donc là, moi, petite autochtone qui n'a pas fait médecine, qui n'est pas chercheur, je crois cette personne. Je fais pas cas, je ne réponds pas. Mais j'avais quand même un souvenir d'une image de quelqu'un qui balance un bout de fer ou un tonneau à l'eau. Et en fait, je vais revoir ces images à Genève lors de la projection du documentaire Les Oubliés de l'Atome. Et en fait, là, on voit une vidéo d'un homme qui balance un tonneau à la flotte. Alors, à moins que ce soit Popeye, je pense pas que le tonneau, il était bétonné. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, encore en 2024, la France nous ment toujours. Malgré tous les discours de transparence, de volonté, de nous faire justice, eh ben non. Je vous avoue que j'étais un peu énervée et agacée quand j'ai vu ces images parce que je suis choquée. Même pendant cette visite où on veut tout nous dire, et ben en fait, on nous a encore menti.
Les Oubliés de l'Atome, c'est une journaliste qui s'appelle Julianne Favennec, qui est polynésienne également, qui a décidé de s'attaquer à un angle nouveau du sujet des victimes des essais nucléaires. C'est de s'interroger sur quid des maladies transgénérationnelles. Est-ce que, en tant que maman et papa, je peux transmettre à mon enfant une maladie? Et donc, effectivement, on a un passage où on voit des marins qui jettent des dizaines de tonneaux et le bateau avance, et qui jettent des morceaux de ferraille et le bateau avance, et qui sont évidemment pas du tout bétonnés. Et c'est là où on voit qu'à la fois, il y a ce mensonge, il y a une fausse transparence, puisque aujourd'hui, on a l'Agence nationale sur la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, qui a publié il y a quelques années un rapport et qui explique, on a jeté au large de Mururoa 2500 tonnes de déchets et au large d'un autre atoll qui s'appelle Ao, un peu plus de 500 tonnes. Et moi, comme j'aime bien les chiffres, alors uniquement dans ce cadre-là, j'ai fait des recherches il y a un an sur les déchets nucléaires militaires dans leur ensemble, puisque la transparence est plus proche de l'opacité en réalité. Et en cherchant sur la base de chiffres officiels, je me suis rendu compte que l'ANDRA disait des chiffres, mais que le ministère des Armées et le CEA disaient d'autres chiffres. Sauf que, donc ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas du tout quelles sont les quantités qui ont été jetées et comment ces quantités ont été jetées. Si elles ont été bétonnées ou pas bétonnées. Donc c'est vrai que ça fait partie des vrais questionnements que l'on peut avoir aujourd'hui sur la sécurité sanitaire de ces environnements Il est évident, vu la profondeur, plusieurs milliers de mètres, que ces déchets ne seront jamais récupérés. Mais il est important pour nous aujourd'hui, pour les générations futures, qu'on se rappelle et qu'on ait une réalité de ce qui a été jeté. Et là, je dirais, on est dans le cas le plus simple, entre guillemets, la Polynésie, parce que on pourra aborder la problématique algérienne. Elle est vraiment pire. En termes de chiffres, on n'en a pas, tout simplement. Comme ça, c'est encore plus simple. Et on a à peine une reconnaissance aussi des déchets qui ont été enfouis sous les sables. Donc voilà, c'est vrai que la transparence n'existe pas. Alors, on a cette problématique des déchets, on a cette problématique sur la faune et la flore, principalement sur les atolls qui ont été pollués et qui ont été le lieu de théâtre des essais nucléaires. On a effectivement, Ina le disait, des missions qui sont réalisées, qui s'appellent mission Turbo, pour savoir si les poissons, si les langoustes, si les coraux sont pollués. On peut se dire que ces missions et les résultats scientifiques sont vrais, sont transparents. Maintenant, il y a eu tellement de mensonges, objectivement, qu'il y a toujours un doute. Et ce qui est demandé aussi, c'est qu'il y ait des études qui soient faites pleinement indépendantes pour pouvoir finalement corroborer et se dire, oui, effectivement, ces missions-là scientifiques officielles disent la vérité depuis 10, 15, 20, 20 ans,
par exemple. Pour le moment, c'est entre les mains de l'État français. Nous, Polynésie, on n'a pas la main sur ça. C'est un terrain militaire avec accès sécurisé. Ce n'est que des militaires qui peuvent aller sur ce terrain. Donc en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est croire les chiffres que l'État français nous donne.
C'est là où on a un vrai problème, et moi je ne suis pas pleinement favorable, c'est que les questions scientifiques peuvent être contredites par des autres rapports scientifiques. C'est-à-dire qu'un rapport scientifique va vous dire c'est à cause des essais nucléaires que la population polynésienne est atteinte de thyroïde, et puis 3 ans plus tard, une autre étude va dire mais pas du tout, vous n'avez pas pris en compte ça, ça et ça et ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, l'IRSEM avait été mandaté il y a une dizaine d'années pour faire une étude sur les problématiques de la thyroïde. Donc a mis 10 ans, presque 10 ans pour faire cette étude. Donc pendant ces 10 années, il y a des populations qui sont là, qui attendent et autres. Et on a conclu que il faudrait faire une autre étude en fait pour avoir confirmation d'un certain nombre de choses. Et donc, si les études scientifiques sont importantes, en fait, on est face à une problématique sanitaire. Et si on ramène à quelque chose qu'on a tous vécu, lorsqu'on a eu le Covid, on n'a pas attendu 5, 10 ou 15 ans pour savoir comment il fallait nous soigner, s'il fallait un vaccin, pas de vaccin. On a pris des mesures franches, nettes et précises tout de suite pour aider la population. Et là, c'est véritablement ce qui manque, en fait, aujourd'hui. C'est d'avancer rapidement et d'donner les moyens financiers, les moyens sanitaires à la Polynésie française pour pouvoir pleinement aider l'ensemble des populations. Et qu'elles soient peut-être pour certaines effectivement atteintes d'un cancer parce qu'elles fument ou d'autres qui sont peut-être atteintes d'un cancer à cause des essais nucléaires. Mais on va pas s'interroger à savoir quelle est la proportion parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on a de trop nombreux cas de familles où on voit qu'elles sont décimées ou elles sont atteintes par ces différents cocktails.
Et on est face aussi à un lobby énorme, le nucléaire, donc ils vont jamais nous dire la vérité. On va toujours nous noyer un flot d'informations à nous mettre le doute partout. Même pour moi, ça a été difficile de me positionner. C'est vraiment en rencontrant d'autres communautés affectées que je vais me rendre compte de l'évidence. Et comme tu disais, on a eu plus de 2000 tests. Tout le monde entier a été touché par les retombées des tests nucléaires. Il y a eu également énormément d'accidents. Donc, on connaît bien Tchernobyl. Il y en a eu aussi aux États-Unis. Il y en a eu en Grande-Bretagne, à ma connaissance. Fukushima. Et par exemple, aux États-Unis, tous les tests qui ont été faits dans l'État du Nevada, donc bien à l'ouest des États-Unis, les retombées ont été ressenties jusqu'à New York, si c'est pas encore plus loin. Donc tout le monde entier a été irradié par les bombes nucléaires à des fins expérimentales.
En fait, la page des essais, elle s'est pas du tout arrêtée comme Ina nous le montre en 98, quoi. Elle est toujours là pour aujourd'hui et pour le futur, dans tous les cas, à minima à cause des déchets qui sont sous l'eau. Donc on n'a encore une fois pas le chiffre, et puis sur les conséquences sanitaires sur les populations et dans l'histoire même de la France qu'il faut absolument porter, puisque c'est là-dessus où on peut peut-être finir. On a finalement aujourd'hui une reprise en main de l'histoire des essais nucléaires par la France ces derniers temps, avec les publications nouvelles qui sont mises en place.
Typiquement, moi, je suis la génération qui n'a rien appris à l'école, qui n'a pas forcément de souvenirs des expérimentations, mais qui souhaite là que ce soit enseigné dans l'éducation en Polynésie, mais aussi en France métropolitaine. Parce que nous, on a bien appris toute l'histoire de France, Louis XVI ne se douche pas. Je pense que vous pouvez aussi apprendre le fait que nous avons été les souris de laboratoire de la France pendant 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est porté par la députée Mériana Reda Arbelot à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de gauche et de droite en Polynésie française. On a les autonomistes, donc ceux qui veulent rester dans la République française, et on a les indépendantistes, donc c'est moi, qui voulant être indépendant pour pouvoir signer et ratifier le Tian. Et donc, pendant des décennies, les autonomistes, c'était les grands amis de Chirac. Donc, c'était ceux qui avaient eu plein d'argent. Comme ça, on calme la population, on leur dit que tout va bien, blablabla, on les fait taire. Voilà comment ça s'est passé pendant des décennies, de 66 jusqu'à 2004. Et les seuls au niveau politique qui se battaient pour la reconnaissance du fait nucléaire, c'était les indépendantistes. Mais malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour mon président, le fait que les indépendantistes portent corps et âme la reconnaissance du fait nucléaire, en fait, a desservi le combat. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas forcément se positionner parce que les méchants indépendantistes. Et donc, pendant des années, le combat a été beaucoup trop politisé. Et n'a pas rassemblé parce que voilà, il y avait cet amalgame entre ouais, mais moi j'ai pas envie d'être indépendant, je veux rester avec la France, donc je vais pas aller, j'ai pas envie d'écouter le message des indépendantistes. Aujourd'hui, il y a quand même maintenant je crois qu'on s'est tous mis d'accord déjà, le fait que la résolution que j'ai portée ait été votée à l'unanimité, que ce soit indépendantiste et autonomiste, a été très fort, et on est là dans une démarche de. Et je fais partie des personnes aussi qui le demandent, de dépolitisation de ce combat, qui n'a pas de couleur politique parce que les maladies radio-induites n'ont pas de couleur politique non plus. Et donc, on est aujourd'hui dans cette démarche. Après, bien sûr, les autonomistes, par exemple, vont dire « Mais vous croyez que si on est indépendant, ils vont encore plus assumer leurs responsabilités ?» Il y a toujours des petits combats comme ça, des petites tractations. Mais ça reste la reconnaissance du nucléaire, le fer de lance du parti indépendantiste, clairement.
Et revenir sur la suite de la campagne ICAN, notre rôle, c'est vraiment de mettre en avant les victimes. Et c'est ce qu'on fait depuis le départ. Lorsque, par exemple, on a eu l'honneur de recevoir le prix Nobel de la paix en 2017, ce prix Nobel, finalement, on l'a partagé, on l'a reçu physiquement avec une survivante, Mme Tetsuko Torlo, pour bien montrer que finalement, on avance avec le travail qui a été fait par le passé, parce qu'on n'est pas les premiers militants, d'une certaine façon, contre les armes nucléaires. Et on se bat aussi pour les générations futures, tout l'intérêt d'avoir aussi avec nous des jeunes qui nous aident et qui s'emparent du sujet, qui est trop peu expliqué dans les universités, à différents niveaux, où il y a une absence de compréhension du sujet, ou la seule compréhension du sujet, c'est tout l'intérêt d'avoir la dissuasion nucléaire. Il y a quelques années, on avait vu dans les livres de troisième où c'était titré « La dissuasion nucléaire protège la démocratie ». C'est vrai que c'est à partir de là, c'est compliqué d'expliquer que la dissuasion nucléaire, finalement, c'est un concept dangereux en termes de sécurité. Donc notre campagne travaille avec la voix des victimes. Et ce que l'on a su mettre en avant et expliquer aussi, c'est que chacun de nous peut faire des choses. Pendant trop longtemps, on a cru que finalement, le désarmement nucléaire, c'est juste la possibilité d'aller manifester, mais on ne peut pas faire grand-chose. Alors que finalement, le dérèglement climatique, on peut se dire, on a mille façons d'agir, de trier ses déchets, puis quand même, à aller nettoyer une plage. On a un sentiment qu'on a fait un truc concret, quoi. Le désarmement nucléaire, c'est vrai qu'envahir une base, c'est un peu complexe quand même. Hein. Et en plus, vous allez finir certainement... quelque part et ça ne marchera pas. On a mis en place des outils qui sont hyper efficaces et c'est l'intérêt du traité. C'est à la fois des outils d'interpellation des autorités politiques chez nous en France, puisque évidemment l'État français, mais L'ensemble des puissances nucléaires refusent ce traité, et c'est important, je le dis à chaque fois, et ont travaillé ensemble pour faire en sorte de faire capoter les négociations de ce traité. Hein. C'est-à-dire que, main dans la main, les Russes d'hier, qui sont d'ailleurs les mêmes qu'aujourd'hui, nos autorités françaises ont travaillé avec elles, avec les Américains, avec les Britanniques, avec les Chinois, pour faire capoter les négociations à l'ONU, hein, véritablement. Mais on a mis en place des outils qui sont à la fois des appels parlementaires. On demande aux parlementaires de soutenir notre campagne, de s'engager à travailler sur le traité. Et l'engagement se fait par interpellation des gouvernements, des questions écrites, des questions orales, organiser des auditions. Je calculais, finalement, ça fait quasiment 25 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai été auditionné que 2 fois en commission de la défense, en 25 ans. Donc, autant dire que c'est pas beaucoup. Mais c'est moi, mais un autre collègue, c'est aussi pareil. Donc, en fait, jamais, on va dire globalement, quoi. Alors, on a eu la chance d'organiser avec vous, avec Madame Danielle Auroi, des séminaires, des choses, mais des auditions publiques. Et d'ailleurs, la dernière audition, elle n'était pas publique, elle était à huis clos. Comme ça, c'est encore plus restreint. On a mis en place un appel des villes. Et c'est ce que disait Ina. Elle a passé la première résolution au sein de son assemblée de Polynésie française pour soutenir le Tian. Donc aujourd'hui, on a 82 villes françaises qui soutiennent cet appel et 4 collectivités territoriales, la Polynésie française, la métropole du Grand Lyon, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département de Seine-Saint-Denis. Et parmi les villes, eh ben, vous êtes dans une de ces villes. Paris a signé l'appel des villes en 2019, ce qui n'était pas une mince affaire, mais qui était très positif. On a plein d'autres grandes villes, que ce soit Lyon, Montpellier, Bordeaux, Saint-Étienne, et plein de petites villes. Dans la couronne parisienne, me vient en tête Grigny, par exemple, ou Malakoff. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que ça heurte véritablement le pouvoir à l'Élysée. À chaque fois qu'une ville signe, ça leur pose un vrai problème. Et ça, c'est pour nous, et donc pour vous, un vrai moyen d'agir en saisissant vos autorités municipales.
En quoi ça les gêne ?
Ça les gêne parce que, en termes de communication, de savoir que la ville de Paris, la capitale de la France, la ville de Lyon, la deuxième ou la troisième ville de France, selon où on se situe, l'Assemblée territoriale de Polynésie française, engage, reconnaît ce traité parce qu'il passe des résolutions, des vœux municipaux. Donc, c'est des choses qui sont légales, qui n'ont pas d'impact, évidemment, qui ne sont pas contraignants, mais qui ont un poids. Eh bien, les pays à l'extérieur se disent « Ah oui, à l'intérieur de l'État français, il y a une sorte de mobilisation. Il y a, si Paris l'a fait, moi, j'ai eu des discours de diplomates africains qui m'ont dit « Eh bien, parce que Paris l'a fait, on va pousser la ratification. » Parce que jusqu'à présent, on savait qu'on était empêché, on a des pressions françaises pour ne pas le faire. Mais si la capitale de la France le fait, ça nous libère un peu de pression. Et donc, on peut y aller, parce qu'on peut se raccrocher à ça. Et donc, c'est ça qui crée une pression globale. Et souvent, ce qui nous a été reproché par le passé, et bien moi aujourd'hui, c'est de nous dire, mais finalement, personne ne s'intéresse à votre traité. On a une question écrite de temps en temps, et puis il n'y a aucun acteur politique qui s'en empare. Et quand on leur dit, on a 82 villes, des très grosses comme des petites, des villes socialistes, des villes de gauche, communistes, et globalement, les villes en France, c'est plutôt des coalitions, hein, plus qu'à part quelques exceptions ou des grandes villes, mais c'est plutôt des coalitions qui sont là, eh bien, ça pose un problème. Aujourd'hui, sur les dernières tribunes qu'on a mis en place, on est passé de 50 parlementaires à 70 parlementaires qui soutiennent, qui affirme que l'État français doit à minima participer aux réunions de ce traité comme État observateur. État observateur, c'est j'ouvre la porte, je prends une chaise, je m'assois, j'écoute, j'exprime ou pas ma position, même si je suis contre, mais en tout cas, eh bien finalement, je suis un État responsable, je participe à un traité qui est reconnu et porté par les Nations Unies. Il n'y a plus d'essais depuis le 27 janvier 1996 pour la France. Plus qu'un seul pays aujourd'hui qui fait des essais nucléaires. Le dernier, c'est la Corée du Nord, hein, qu'on a fait entre 2006 et 2017. Donc, c'est le seul État au monde qui a réalisé ça.
Il n'y a plus besoin d'essais ?
Alors, en France, en fait, ils ont mis en place un programme qui s'appelle de simulation des essais nucléaires, qui se compose à la fois de supercalculateurs qui sont dans la banlieue parisienne, dans la Bruyères-Châtel, d'un laser mégajoule, c'est un ensemble de lasers qui permettent de créer une partie de l'explosion thermonucléaire et d'une troisième partie qui est à Val-d'Uc à côté de Dijon aussi, qui est un système de laser C'est par ces analyses-là que l'État français dit pouvoir garantir la fiabilité et aussi concevoir de nouvelles armes. Hein. L'État français a conçu deux nouvelles ogives nucléaires en 2010 et 2015 grâce à ce système-là, hein, sur la base des expériences et des connaissances scientifiques acquises par le passé. Mais voilà, donc ça permet en fait la pérennisation de l'arsenal nucléaire français, ce qui est fait exactement de la même manière du côté des Américains, des Chinois ou des Russes. Hein.
Nous terminons cette émission sur le nucléaire par une brève d'actualité. Tout d'abord a eu lieu un double tir simultané par la France, à des fins d'entraînement, de missiles de croisière navals, et ce pour la première fois, le 18 avril 2024 dernier. Si la dissuasion nucléaire est toujours avancée pour justifier cet exercice, ici dans un contexte de menace atomique, le mouvement de la paix indique lui, dans son communiqué, une bascule en cours du concept de dissuasion vers la possibilité de l'utilisation de l'arme nucléaire, avec comme arrière-plan la guerre en Ukraine. Plus proche de nous, mais tout en transition, à l'occasion des 38 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, pour laquelle la plaisanterie sur les compétences de la douane française n'est plus à faire, le nuage s'étant prétendument arrêté à la frontière, donc plus proche de nous, a eu lieu la semaine passée plusieurs actions et réunions publiques à l'occasion de cette commémoration. À l'appel de la coordination antinucléaire, des manifestations ou rassemblements régionaux ont eu lieu à Lyon, au Mans, à Tours, en région parisienne, à Bordeaux, à Civaux, en Nouvelle-Aquitaine, à Cattenom, en Moselle, à Golfec, dans le Tarn-et-Garonne, avec pour but également de marquer une opposition au projet d'EPR de deuxième génération et pour protester contre le prolongement des réacteurs existants. Des banderoles dénonçant les risques du nucléaire, notamment, ont été déployées en plusieurs endroits, comme à Lyon, sur le bâtiment du siège régional d'EDF. Nous rappellerons sans détailler le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, toujours en cours, le projet de filière d'un Small Modular Reactor, et les risques de régression en termes de sécurité que fait peser la fusion de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Rajoutons à cela, et cela conclura cette brève, la possibilité envisagée par l'armée d'utiliser la centrale de Civaux pour fabriquer du tritium à usage militaire dans le cadre d'une collaboration entre l'État, EDF et le commissariat à l'énergie atomique. Dans une perspective de longue durée, et la centrale étant la plus jeune du parc nucléaire français, avec une mise en service en 1997.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.